et qui sont à l'écoute de notre station.
J'ai jamais changé le monde avant, alors je sais pas exactement combien de temps ça prend, mais si on est assez
tôt... No problemo!
Camarades, j'ai discuté nuit et jour avec Burns et j'en ai ras-le-bol.
La grève, la grève, la grève!
C'est qu'un bon la grève!
Et en quoi l'éducation peut me rendre plus intelligent? Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, j'oublie quelque chose que je savais.
Fusion du cœur du réacteur dans 10 secondes. 9, 8, fusion évitée.
Nous appartenons à la commission de réglementation du nucléaire. Nous venons vérifier les compétences de vos employés.
Il doit y avoir une erreur. Nous fabriquons des biscuits ici.
Vous avez un Homer Simpson dans vos effectifs.
Désolé, il est en voyage.
Oui, il est à Genève. Il préside une conférence sur la fission nucléaire.
Homer, c'est la réplique exacte de votre poste de travail. Nous allons simuler une surchauffe dans le secteur 8 du cœur du réacteur.
Ça va pas la tête de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il faut que je fasse.
Détendez-vous, ce n'est qu'une simulation, il ne se produira rien.
J'appuie à l'aveuglette jusqu'à ce qu'il me laisse partir. Moi, détruire espèce humaine.
Cette centrale viole toutes les lois sur le travail.
Vive l'anarchie.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce jeudi 7 décembre 2017. Nous sommes ensemble pour une heure pour ce Canu Info de ce jeudi, donc avec Laurent au micro noir.
Bonsoir Delphine.
Et moi donc j'ai le petit micro bleu sale ce soir. Alors nous allons parler ce soir de Johnny, de Neige et de Panda. Parce qu'il me semble que c'est l'actualité de ce début de mois de décembre quand même, c'est très important. Alors j'espère que vous avez lu ce magnifique papier du Canard Enchaîné de cette semaine sur les pandas et sur Madame Brigitte Macron. C'est très très drôle, c'est très moqueur. Je vous incite à aller lire le Canard Enchaîné évidemment de cette semaine, de la semaine dernière et puis de la semaine prochaine, hein, il faut vous y mettre. Si c'est pas le cas, parce qu'évidemment notre lady... présidentielle nomme des pandas et fait du relationnel, hein, puisque nous sommes dans un système un petit peu impérial quand même, comme toujours, les dames en sont quand même réduites, il faut bien le dire, à aller chatouiller le museau du panda. Et puis, à la neige, hein, puisque moi j'ai appris que la neige, ça fait froid et ça mouille. Hein, ça c'était quand même, ça vaut le prix Pulitzer pour France Info, qui nous a fait de magnifiques reportages sur la neige qui mouille, hein, c'est important. Et puis, cette déferlante sur monsieur Johnny Hallyday, mort, donc. Ça y est, enfin, tu m'as dit, Laurent, ça a été ton message quand je t'envoyais « ça y est, il est mort », tu m'as répondu « ah, enfin hein, !» Je dois le dire que quand même, nous amenons évidemment une petite critique sur tout ça, parce que les médias sont assez unanimes, nous avons des jours et des jours d'hommage devant nous. Hier, intégralement, radio et télé étaient consacrés à Johnny Hallyday. TF1, France 2, M6, les chaînes du groupe Bolloré avaient transformé leur programme de la journée, leur programme de soirée, pour nous proposer du Johnny Hallyday et encore du Johnny Hallyday. Jean Lormesson qui venait juste de mourir, lui finalement il a pas eu de bol, il tombait mal.
Non, c'est quand même une bonne semaine, on a perdu un écrivain tendance homophobe de droite et un chanteur bien à droite lui aussi qui soutenait Jacques Chirac. Vous savez Jacques
et
Chirac
Sarkozy,
c'est
après, hein.
Et Sarkozy, Jacques Chirac c'est le bruit l'odeur là, le petit raciste qui est sympa, qui boit de la bière mais qui est raciste quand même. Donc oui, les gens de droite meurent en ce moment, célèbres, parce que il y a des gens qui meurent partout. Tant que c'est mieux que toujours des gens de gauche quand même célèbres. Hein, il y en a moins des gens de gauche célèbres en ce moment.
Nous rappelons aussi que Johnny Hallyday ne voulait pas payer ses impôts. Hein, il estimait que il était la parole du petit peuple, paraît-il, mais en même temps il voulait pas donner son pognon pour que le peuple
égoïste
vive. Et bien alors ceux et celles qui ont osé dire qu'il y avait autre chose à parler que du Johnny Hallyday se sont fait
lyncher.
Lynchés sur les réseaux sociaux.
Il y en a même qui ont dit qu'il fallait que l'hommage soit plus important que, ou aussi important que Victor, la mort de Victor Hugo. Victor Hugo qui a quand même écrit des livres un peu plus importants que les quelques paroles que Matt Juni n'a même pas écrites paroles. Donc voilà, bon, bref.
Et ben bref, il va y quand même y avoir un hommage populaire sur les Champs-Élysées. Monsieur Macron à l'église de la Madeleine pourrait prendre la parole. Il va y avoir un convoi funéraire. Enfin, on est quand même proche du grand n'importe quoi. Et alors, moi, j'ai trouvé des gens qui ne s'arrangent pas du tout cette affaire, parce que à Lyon, nous avons la fête des Lumières. Hein, demain, c'est le 8 décembre, qui évidemment s'étale maintenant sur plusieurs jours. Mais vous savez ce qui se passe en général pour ce week-end?
On est envahi par des touristes zombies.
Ouais, non. Mais à la télé, normalement. Oui, alors il y a aussi des touristes sympas qui
boivent le vin chaud, le matin Téléthon. Long, là. Ah oui.
Il y a le Téléthon. Et alors, le problème, c'est que ça se passe normalement sur France 2, cette affaire. Bon, d'année en année, il y a de moins en moins d'auditeurs et d'auditrices pour cette chose. Hein. Les gens se passionnent plus trop pour ces heures et ces heures de direct. Ça devait être présenté cette année par, ça sera présenté par Sophie Davant et Nagui sous le parrainage de la chanteuse Zazie. Sauf que, mais en même temps, il y a l'hommage à Johnny Hallyday. Et donc, du coup, tout ça s'est amputé. Il faut quand même se souvenir que le Téléthon, c'est beaucoup de bénévoles. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui
s'investissent. C'est essentiellement des bénévoles.
Au-delà de la télé, qui peut être très emmerdant à regarder, de partout en France, il y a des bénévoles qui s'investissent. Pour la santé d'autres personnes, c'est quand même assez incroyable, à la base, quand même, d'être bénévole.
Hein. Oui, pour pallier les carences de la recherche publique.
Et exactement.
Et donc Johnny est en train de tuer le Téléthon.
Eh ben, disons que déjà le Téléthon, au niveau,
dommage.
Au niveau de la télé, on peut bien dire qu'il est en train de se tuer lui-même, il faut le dire. Mais là, effectivement, France 2, France 3, on ne sait pas bien comment ça va se passer, puisqu'il va y avoir des retransmissions sur des hommages à Johnny Hallyday, et en même temps devait se tenir le Téléthon. Pour l'instant, ce n'est pas très clair de savoir ce que la télévision publique va faire. En même temps, elle est fortement concurrencée par TF1 et M6, qui aussi ont promis tout un tas de choses, et aussi par évidemment les chaînes en continu qui ont non cessé de nous causer de Johnny Hallyday. Mais pendant ce temps-là, il se passe quand même des choses en France, à part la neige qui mouille et qui fait froid, les pandas qui sont jolis, tout mignons, et Johnny Hallyday qui est mort.
Il y a une vraie actualité.
Il y a de l'actualité. Alors nous, on a fait quelques choix, ça sera les nôtres, comme vous savez, dans cette émission. Laurent, évidemment, va revenir sur la déclaration de Monsieur Trump sur Jérusalem, sur le Proche-Orient. C'est quand même pour nous l'actualité de cette semaine. Rapidement, on va juste reparler du Liban. Nous ferons un petit tour du côté de Monsieur Macron, qui est notre VRP Made in France de la semaine, en costume cravate. Nous parlerons des pollueurs de la FNSEA. Je vous parlerai, moi, un petit peu de sport business, parce que des fois, ça ne veut pas et ça ne marche pas. Vous savez qu'on n'aime pas le sport business et la compétition dans cette émission. Nous parlerons des économistes. Nous parlerons à de bonnes choses de l'Australie. Hein, parce que là, il y a une bonne nouvelle cette semaine, et puis peut-être qu'on parlera d'autres choses, dont évidemment d'énergie et d'environnement, avec par exemple le stockage du CO2.
Si on a le temps.
Si on a le temps, mais tout de suite, on va commencer évidemment avec cette info extrêmement importante.
Alors, je voulais dire que Radio Canu est écoutable à Lyon sur le 102.2, sur la bande FM, donc traditionnelle, et aussi sur Internet. Et nous saluons l'auditeur de Lille qui nous a félicité et encouragé juste avant ce Canu Info.
Ouais, c'est super sympa.
Voilà.
Merci.
Donc, nous poursuivons notre travail d'analyse de l'actualité bénévole avec, le retour sur la déclaration de Trump, hein, qui a annoncé officiellement vouloir accepter, en fait, ce que le Congrès a décidé, c'est-à-dire le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv, où il est une ville officielle en fait pour beaucoup de pays du monde, comme étant la capitale de l'État d'Israël, vers Jérusalem, qui n'est pas la capitale de d'Israël officiellement. Alors depuis que Trump a annoncé cette déclaration, forcément les réactions ont afflué. En général, c'est essentiellement de la colère et de la réprobation, quasi unilatérale, on va le dire quand même. On notera dans les réactions, en outre, le fait que soit mis en avant cette annonce qui constitue quand même une violation du droit international. C'est pas simplement une décision, parce que finalement chaque État fait ce qu'il veut, mais ses ambassades, ses consulats, où il veut. Non, c'est Trump, il va au-delà de tout ça, il bafoue le droit international et les décisions de l'ONU relatives au statut de la ville de Jérusalem, avec un statut un peu particulier. Voilà. Alors ça fait réagir, on notera dans les différentes réactions le gouvernement jordanien à travers son porte-parole, Mohamed Moumenier, qui a affirmé, je cite, que la décision du président américain constitue une violation des décisions du droit international et de la charte des Nations Unies. Il n'a pas tout à fait tort. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, a lui, je cite toujours, condamné la déclaration irresponsable de l'administration américaine. Cette décision est contraire au droit international et aux résolutions de l'ONU. Ils disent un peu tous la même chose. Voilà, il y a eu plein de réactions comme ça. Monsieur Macron a condamné, a dit qu'il n'était pas d'accord, etc. La question du statut de Jérusalem reste posée. Je vais redonner quand même les petites étapes hein, qu'il y a eu sur ce statut particulier de la ville de Jérusalem. Donc, dans le plan de partage de la Palestine de 47, alors ça s'appelle plan de partage, mais c'est honteusement mal nommé, hein, parce que c'est un plan de vol et d'acquisition de terres, enfin de vol, hein, de terres qui n'étaient, qui appartenaient à des gens qui habitaient là-bas. Cette résolution de 181 en 87 là, qui crée l'État d'Israël considère la ville comme ne faisant pas partie d'Israël. Il, officiellement dans le texte c'est écrit que c'est un corpus separatum. Oui, à l'époque ça fait bien d'utiliser le latin. Donc c'est-à-dire c'est un corps séparé qui est censé être placé sous un régime international. Ce que pas mal de gens continuent de demander d'ailleurs hein, parce que cette ville elle est ingérable vu l'ambiance qu'il y a à cause de ces trois religions monothéistes qui sont nées là-bas et qui veulent se réapproprier les lieux et les diriger en permanence. Donc voilà, alors ça c'était la première étape. Bien sûr, il y a la guerre des six jours en 67, au cours de laquelle est annexée Jérusalem-Est. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 242 qui condamne l'occupation par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza et demande le retrait des forces israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit, cette fameuse guerre des six jours. En 71, le Conseil de sécurité se penche tout particulièrement sur le statut de la ville de Jérusalem et sort une résolution qui porte le numéro 298 et qui dit que toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens d'immeubles, le transfert des populations et la législation visant à incorporer la partie occupée sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville. Bon. C'est pas fini, ça changera rien qu'il y ait ces résolutions, mais symboliquement elles existent. En 80, les Nations Unies insisteront à nouveau sur le caractère non avenu de la modification du statut de la ville dans une nouvelle résolution qui est la 476 qui condamne la déclaration du Parlement israélien, la Knesset, qui reconnaît, je cite, Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu, et ça va être un petit peu compliqué à gérer internationalement, mais l'ONU ne valide pas la déclaration d'Israël. En 2004, la Cour internationale de justice, on sort de l'ONU, a publié un avis qui concerne donc l'édification par Israël du mur de séparation dans les territoires occupés et qui touche Jérusalem. Cet avis, le texte dit que les territoires situés entre la ligne verte, donc 67, les frontières 67, et l'ancienne frontière orientale de la Palestine sous mandat ont été occupés par Israël. Donc selon le droit international, il s'agissait donc de territoires occupés dans lesquels Israël avait la qualité de puissance occupante. L'ensemble de ces territoires, y compris Jérusalem-Est, demeure donc des territoires occupés et Israël y a conservé la qualité de puissance occupante. Bon, bref, c'est répété 15 fois, c'est bien un occupant, c'est bien de la colonisation, ça leur appartient pas. Alors, on va quand même aller plus loin, parce que Trump a été, je sais pas si c'est lui, c'est sûrement pas lui qui a écrit le truc, mais il a été plus intelligent que ce qu'il n'y paraît, parce qu'il a jamais l'air très intelligent. Mais la question qui était très importante, qui précédait le discours, parce qu'on savait qu'il allait annoncer ça, mais on savait pas comment il allait le faire. Est-ce qu'il allait utiliser le mot de Jérusalem Est, de Jérusalem Ouest, qu'allait-il dire? Ben, en fait, il est filou, parce que, et il a été ambigu. Il a dit que l'Amérique reconnaissait Jérusalem comme la capitale, mais il n'a jamais parlé de Jérusalem-Est, ni de Jérusalem-Ouest, et il a subtilement, mais très légèrement, laissé entendre que ça ne concernait que les zones israéliennes de la ville. Alors certes, dans toutes les réactions, personne n'a percuté sur cette petite finesse, et je pense qu'il l'a fait exprès, hein, en gros, il fait de la provoque, et il laisse quand même des garde-fous en disant « Mais attendez, regardez, si vous allez bien loin dans le discours, j'ai pas parlé de la partie occupée, etc. » Et effectivement, c'est le cas. Alors, c'est pourquoi il fait ça ? Pour se protéger, comme je viens de le dire, mais il y a aussi le fait qu'il a pas totalement abandonné de construire un discours et de mettre en œuvre une politique de paix. Alors pour l'instant, il ne le fait pas. Il donne toujours l'impression de suivre ces fameux chrétiens sionistes américains là. Mais il n'y a pas que ça. Hein. On sent que il a peut-être des choses derrière, de côté, pour un processus de paix. Alors ça ira pas dans le sens des Palestiniens malheureusement, mais il a quand même redit plusieurs fois qu'il voyait l'existence de deux États l'un côté de l'autre. Donc il veut pas une colonisation totale de la Palestine par Israël. Bon, à voir ce qui sera donné dans l'avenir, mais moi j'ai trouvé ça drôle qu'il soit relativement subtil, enfin drôle, tout, entre guillemets, qu'il soit relativement subtil sur le, ce que voulait dire pour lui ce qu'était Jérusalem. Et c'est pas le grand Jérusalem avec le Jérusalem-Est, il l'a pas dit tel quel, comme quoi les gens qui écrivent ces discours sont un peu plus intelligents que lui, vraisemblablement. Bon, malgré toute cette délicatesse hein, dans son discours, ça a entraîné des réactions forcément importantes dans le monde arabe, puisque là, bon, j'ai parlé de la Jordanie tout à l'heure, mais du côté des Palestiniens, ça a commencé à bouger. On sait que Israël n'a aucune intention d'accorder aux Palestiniens la souveraineté qu'ils souhaitent à Jérusalem-Est. Hein, Jérusalem-Est devrait devenir la capitale d'Israël, de la Palestine. C'est totalement logique dans l'histoire du territoire et de ce territoire-là. Hein. Sauf que Israël n'est pas prêt à ça. D'ailleurs, Israël, depuis des années, propose Abu Dis, qui est un petit peu à côté, comme capitale de la Palestine. Les Palestiniens n'en veulent pas. Et voilà, par le biais des alliances diplomatiques, les ennemis de nos ennemis sont nos amis, l'Arabie Saoudite a proposé qu'Abu Dis soit la capitale de la Palestine. C'est quand même la honte, quoi. Enfin, voilà, c'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite est la honte au niveau international, mais là, c'est pas loin. Alors, la réaction du Hamas, on s'y attendait, ça les a hyper énervés. Donc, ils ont appelé à la mobilisation, à une nouvelle intifada. Ils ont dit qu'on pouvait pas soutenir la politique sioniste des États-Unis d'Amérique. Bon, ils sont dans un discours traditionnel. On pensait qu'ils avaient fait un petit peu de progrès sur les relations qu'il fallait entretenir avec Israël. Bah, pas du tout. Je cite la phrase de Ismaël Haniyeh, le leader du Hamas. Il dit, je dis aujourd'hui que la Palestine est aussi une et unie comme la mer l'Est, comme la mer l'Est à la rivière, enfin de l'Est à la rivière. En gros, toute la partie entre la mer et le Jourdain, c'est la Palestine. Elle ne peut être divisée en deux États ou en deux entités. La Palestine et Jérusalem sont à nous. Nous ne reconnaissons pas la légitimité de l'occupation et l'existence d'Israël sur la terre de Palestine pour qu'elle ait une capitale. Alors là, on retombe dans l'antisémitisme assez classique de la part du Hamas. Ça fera pas avancer la paix. On peut discuter sur est-ce qu'on veut un État, deux États, un État binational, tout ce qu'on veut. Dire qu'on veut détruire, parce que ne pas accepter l'existence d'Israël, c'est dire qu'on veut détruire la terre d'Israël. C'est-à-dire les Juifs qui habitent sur cette terre-là. On répond à une provoque d'un imbécile par une provoque imbécile. Bah, des fois, faut faire preuve d'intelligence, mais alors Ismaël Haniyeh est pas connu pour ses démonstrations de finesse politique et d'ouverture. Donc voilà, on n'en attendait pas autre chose non plus de ce personnage, mais bon, c'est un petit peu triste. Et de dire que la Palestine et Jérusalem sont à nous, comme il le dit, ben voilà, non, on rappellera que la Palestine, Jérusalem, comme l'ensemble de la planète, est à personne. Les gens qui habitent ont droit d'y vivre, ont droit de le gérer, mais ça appartient à personne, et ça, il faudrait qu'ils soient un peu plus intelligents pour comprendre, mais c'est un truc un peu anarchiste, et il aura quand même du mal à comprendre ce que c'est que l'anarchisme, monsieur Haniyeh. Voilà, donc c'est une appropriation nationaliste, de tous les côtés, on a des nationalistes, de toute façon, on en est là. Et alors, il est arrivé un truc un peu bizarre. Alors, bon, il a appelé aussi à accélérer le processus de réconciliation avec le Fatah, qui dirige l'autorité palestinienne. Bon, on sait que ça va être compliqué, là aussi, à voir un petit peu ce qui va arriver. Il y a un appel à la grève générale aujourd'hui dans les territoires occupés, je vais revenir tout de suite dessus. On notera une déclaration un peu bizarre de la République tchèque, qui a dit, je cite, on reconnaît Jérusalem-Ouest, dans ses frontières de 67, donc à peu près ce que beaucoup de gens veulent, comme capitale d'Israël. Ça, il n'y a pas beaucoup de pays qui reconnaissent deux parties de Jérusalem-Ouest, donc la partie non occupée officiellement, c'est-à-dire attribuée à Israël en 67, comme la capitale. On sait que la Russie l'avait fait en 2012. Mais voilà, alors pourquoi déclarer ça aujourd'hui, après la déclaration de Trump? Moi, j'ai pas tout compris l'intérêt de la Tchéquie de faire ça. Alors le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit demain matin il y avait une réunion prévue, ils termineront la réunion en parlant de ça, pour essayer de voir ce qu'il faut faire, s'il y a quelque chose à faire. Il y a quatre pays européens, la Suède, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, qui ont demandé à ce qu'il y ait une modification du contenu de la réunion. Il y a la Bolivie, l'Uruguay et l'Égypte et le Sénégal qui ont demandé aussi. Donc voilà, ils vont en discuter demain, on aura peut-être une réponse demain. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le secrétaire général des Nations Unies a dit que pour lui, le statut de Jérusalem ne peut être résolu que par une négociation directe entre Israéliens et Palestiniens. Oui, on pourrait dire aussi avec tout le monde, avec l'ensemble de la planète, comme ça, ça éviterait de laisser deux belligérants que entre eux. Ça serait peut-être pas mal aussi. En tout cas, c'est eux qui sont le plus concernés et certainement pas les États-Unis d'Amérique. Alors les réactions un peu plus violentes, ça a bougé donc en Cisjordanie à Jérusalem-Est, donc la grève générale a été lancée, ça a été plutôt suivi en Cisjordanie, un petit peu moins ailleurs, parce que les commerçants sont avant tout des commerçants et ils en ont un peu marre aussi des discussions politiques et de la provoque, hein, puisque on rappellera, et je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que depuis, Trump a reculé, puisqu'il a dit qu'il se donnait 6 mois avant d'officialiser le départ de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, donc ça se trouve, ça c'est même pas fait. Voilà. En tout cas, des affrontements ont eu lieu forcément dans les parties occupées par Israël, notamment Cisjordanie, Bethléem, Qalqilia, Jenin, Ramallah, bon, inévitablement Hébron, qui est peut-être l'endroit le pire au niveau de l'occupation israélienne en Cisjordanie. Dans la bande de Gaza aussi, quelques tirs de la part des soldats israéliens, quelques blessés aussi. Du côté israélien, la réaction, c'est que Netanyahou il nageait dans le bonheur. Il a dit, je cite, « Le président Trump est entré à jamais dans l'histoire de notre capitale, donc de Jérusalem. Bon, » il est entré dans l'histoire déjà depuis un petit moment pour beaucoup de bêtises. Et en tant que président des États-Unis d'Amérique. Alors, là-dessus, pour terminer sur la Palestine et Israël, bon, la France, à travers le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Il a appelé à une réunion de l'ONU, à modifier la réunion de l'ONU demain matin. Mais enfin bon, on rappellera quand même que le 10 décembre, dans quelques jours, il reçoit le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est la deuxième fois qu'il le voit depuis le début de son mandat, qui n'est pas très long. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, surtout pour rien faire et pas parler de paix, pas l'obliger à avancer, pas rien faire. Hein, parce qu'il condamne un petit peu ce qui se passe. Il rompt aucune relation diplomatique avec les Américains ni avec les Israéliens. Il ne bloque ni le commerce avec les Américains, ni avec les Israéliens. Il fait rien, en fait. C'est facile de condamner. Oh, c'est mal ce que tu fais. Mais, dans les faits, qui ne dit mot consent, bah oui, parce que dans toutes tes autres décisions, il soutient, en fait, ce qui est en train de se passer. Donc c'est juste la honte. Et le top du top de la honte, c'est que le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits humains. Et il accueille Netanyahou le jour de cette journée internationale des droits humains, alors que l'État d'Israël bafoue les droits humains depuis de nombreuses années. Voilà, c'est juste la honte. Et conséquence de tout ça, du merdier du prochain Moyen-Orient, on va parler très très brièvement du Yémen, puisque vous avez tous entendu parler de l'assassinat de l'ancien président, dictateur. Puisque les rebelles yéménites, les Houthis, ont fait une déclaration officielle aujourd'hui avec grande fête dans la capitale Sanaa, puisqu'ils ont dit, ça y est, on contrôle l'ensemble de la capitale de la ville yéménite. Donc c'est la rébellion Houthis. Donc là, c'est un truc symbolique très important. On pensait qu'ils étaient en perte de vitesse, comme les Houthis, face à la coalition militaire arabe soutenue par Israël, les États-Unis, alors qu'eux sont plutôt soutenus par l'Iran. Hein. Et là, bah non. Alors faut dire que Ali Abdallah Saleh, qui a été donc tué il y a 2-3 jours, était à la tête du Yémen pendant 33 ans, jusqu'à son départ un petit peu forcé en 2012, qui s'était allié avec les Houthis, pour essayer de reprendre la capitale, ce qu'ils ont fait en 2014. Et là, c'est ses amis Houthis qui l'ont tué. Hein. Et bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe là-bas. Mais en tout cas, ça démontre une fois de plus que la situation est critique juste en dessous. Hein. Celle du Yémen n'est pas très, c'est en dessous de l'Arabie Saoudite. Et que cette guerre sunnite-chiite, elle intervient au Yémen. Hein, on instrumentalise la religion, et ce que fait d'ailleurs Donald Trump en mettant de l'huile sur le feu de la situation à Jérusalem, c'est instrumentaliser la religion alors que derrière c'est une occupation politique, c'est une occupation territoriale avant tout, et la religion c'est juste l'instrument. Donc voilà, la situation au Yémen reste très très compliquée et bon, c'est pas prêt de s'arranger avec cette prise officielle de Sanaa, de l'ensemble de Sanaa, la capitale du Yémen, Sanaa, par les rebelles Houthis. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là sur le Proche-Orient parce que sinon on va pleurer.
Écoute, on va continuer quand même dans la région, puisque je vais revenir le Liban. Ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle. Je vais revenir assez rapidement. C'est au cas où vous n'aviez pas tout suivi du déroulé. On en est donc au volte-face statu quo. Volte-face, on avait lancé les paris. Monsieur Saad Hariri est revenu donc sur sa démission. C'était mardi. Il est donc toujours Premier ministre du Liban. Voilà. Je sais pas quel pari vous aviez fait de votre côté. Donc
pas
évidemment,
grand-chose.
Ça évite une crise institutionnelle. Je vous rappelle qu'on a déjà eu une paralysie du pays. Il n'y avait pas de président de 2014 à 2007. Donc, en plus, là, on n'avait plus de premier ministre. Enfin bon, ça revenait en arrière. C'était de retour une grosse galère. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va se passer réellement? Ben, ça, c'est un petit peu compliqué à savoir. Alors, ce qu'on sait, c'est que les partis politiques représentés au sein du gouvernement ont donc expliqué qu'ils tenaient à leur attachement au principe de distanciation. Qu'est-ce que
alors,
ça veut dire
quoi,
donc, de
ouais.
tout ça? Alors je vous rappelle que le Liban c'est un pays qui est coincé et on vous le rappelle à chaque fois, qui malheureusement est en tenaille dans des conflits qui ne regardent pas forcément ce pays.
Et c'est un peu comme le Yémen où sunnites chiites, 11 territoires pour se battre, le Liban c'est un peu pareil.
Et de fait, je vous rappelle qu'il y a du côté de Monsieur Hariri un courant plutôt proche de l'Arabie Saoudite et puis le Hezbollah qui est carrément lié
à l'Iran.
Et donc l'idée de la distanciation, c'est de se tenir à l'écart de tout conflit, de toute guerre et des affaires intérieures des pays arabes. Est-ce que ça va marcher cette affaire? Est-ce que ça peut marcher? Alors là surtout, on se demande avec cette fuite de Monsieur Hariri en Arabie Saoudite, puis son passage par la France et tout ça, mais enfin quand même. Et puis le Hezbollah tellement proche de l'Iran qu'on se dit que en fait c'est l'Iran qui aujourd'hui dirige le Hezbollah. On se demande bien comment cette distanciation va pouvoir être mise en œuvre. De toute manière, tout ça c'est pas expliqué. Ce qu'on sait, c'est que demain la France a annoncé qu'il y aurait une réunion du groupe de soutien international au Liban qui va donc se tenir en présence de Monsieur Macron et de M. Le Drian, donc le ministre des Affaires étrangères. Il va y avoir aussi le vice-secrétaire général des Nations Unies, Amina Mohamed, pardon. Il va donc y avoir Saad Hariri, il va y avoir après des représentants de l'Allemagne, de la Chine, de l'Égypte, des États-Unis, d'Amérique, de l'Italie, du Royaume-Uni, de la Russie. Il va y avoir des représentants aussi de l'Union Européenne, de la Ligue Arabe, du HCR, de la Banque Mondiale, puis j'en oublie dans l'eau, du Bureau des Coordinateurs Spéciaux des Nations Unies pour le Liban. Donc l'idée c'est de réaffirmer le soutien au Liban, à sa souveraineté, ai-je lu sur le site de la diplomatie française, de sa stabilité et de sa sécurité. Encore une réunion peut-être pour du blabla, on ne sait pas bien. Mais en tout cas, encore une fois, nous souhaitons bon courage aux Libanais et aux Libanaises dans ce bazar. Et puis donc, Monsieur Macron se balade beaucoup. Il était à Alger.
Alors, on n'a pas beaucoup d'infos sur ce qui s'est passé. Ça a duré une journée, c'était très court. On ne sait pas s'il a rencontré la momie, la Bouteflika.
Oui, il y a des dessins très drôles là, sur cette affaire dans le Canard Enchaîné de cette semaine. Oui, voilà. A-t-il rencontré du liquide ou pas? Donc, M. Macron est en balade et donc il est allé au Qatar. Alors, au Qatar, évidemment, il est allé parler...
business.
Alors, d'abord, il est allé là-bas pour parler lutte contre le terrorisme, s'il te plaît.
Excuse-moi.
D'abord, mais évidemment, il est allé aussi signer des contrats, en tout cas signer, les mettre en place, tout ça, faire en sorte que ça se passe bien, et amener son soutien à des entreprises de chez nous. Cocorico, y en a, ils sont tout contents dans la presse. Alors, ça s'est passé aujourd'hui, donc on a pris les bien bonnes nouvelles. C'est plus de 11 milliards qui ont été signés. Alors, on a donc la concession du métro de Doha, qui est pour le consortium composé par la RATP et Keolis, un contrat de 3 milliards, tout de même.
C'est pas très grave, ça fait pas de mort, ça.
Non, il y a aussi le tramway aussi, avec toujours ce même consortium. On a aussi Qatar Airways qui a annoncé des commandes d'A320 et puis d'Airbus A321, avec des options sur en plus 30 appareils, ça aussi, on est content. Et puis alors après, il y a des trucs évidemment un petit peu plus embêtants quand même, puisque le Qatar a signé la vente de 490 véhicules blindés de type VBCI, pour ceux et celles qui sont des spécialistes. Et là, c'est Nexter, toujours de chez nous, là, c'est un contrat à 2 milliards. d'euros.
Donc là, c'est armes de guerre. On est spécialiste pour vendre des armes de guerre aux pays pas démocratiques.
Véhicules blindés, 490 minimum. Hein, voilà. Et puis surtout, il y a les Rafales, 12 de plus, avec une option pour 36 autres. Hein, le Qatar continue à s'équiper.
Et là, ils ont acheté d'ailleurs américains aussi. Ils ont... au niveau des armes, ils sont assez ouverts. Ils achètent
comme
un
l'Arabie Saoudite. Hein,
voilà, à tout le monde. Et le but, c'est de, bon, sûrement de s'en servir. Et ça, c'est un petit peu triste que... Ben voilà, que Macron, il aille vendre des armes. Parce qu'on rappelle que quand on vend une arme, si l'arme est utilisée, ben on a quand même du sang sur les mains. Mais ça, bon, pour l'instant, il n'a pas l'air de s'inquiéter beaucoup, M. Macron.
Oui, mais les ventes d'armes et de produits militaires dans le monde ne cessent d'exploser. Hein. On est en forte explosion et sur ce business.
Et la France est troisième ou quatrième, ça dépend de l'Angleterre. Et là, il y a une grosse bataille. Donc Macron, il veut remporter la bataille.
Et on vous rappelle que le Qatar est dans une situation isolée, mais on va y revenir quand on parlera de sport business.
Alors c'est à moi, je vais faire un détour sur la France, parce que là, il faut quand même parler de ce qui se passe chez nous. Hein.
Oui, encore une fois, on vous le dit, cette semaine, on a un déroulé un petit peu bizarre, mais c'est comme ça.
Alors, je vais parler de l'INSEE, l'Institut National de Machin de Statistique, là, qui nous donne des chiffres. C'est des gens qui analysent voilà, les chiffres, avec une analyse qui est politique ou pas, mais voilà, c'est assez bien fait en général. Et là, ils sont allés voir, et je pense qu'ils ont mis un coup de boule à la FNSEA. La FNSEA nous raconte depuis des années, et notamment avec l'histoire du glyphosate, que c'est pas possible de gagner de l'argent sans mettre de glyphosate, parce que le bio, c'est pas bien, ça peut pas nourrir tout le monde, et c'est pas possible. Bon, et ben là, l'INSEE, ils ont pris, ils ont étudié, ils ont comparé des exploitations en agriculture bio et en agriculture dite conventionnelle, on appellera ça dite polluante, parce que le conventionnel, en fait, c'est le bio. Historiquement, sur l'ensemble de la planète, depuis l'histoire de l'agriculture, la plus grande période a été bio, en fait. Hein, mais ça, ils ont du mal à comprendre ça, tous ces gens. Mais bon, bref, utilisons leur terminologie. Alors, ils ont regardé 30 000 exploitations en France, dont 1800 en bio, dont le chiffre d'affaires dépasse 76 500 euros. Donc, des structures pas, suffisamment importantes pour faire vivre des gens, en fait. Pour les fermes bio, et donc ça va être l'objet de la comparaison, ils sont focalisés sur trois domaines, en fait, la viticulture, le maraîchage et la production de lait de vache. Alors pourquoi ces trois domaines? Ils nous expliquent, en fait, c'est ces trois productions au sein desquelles il y a le plus d'exploitations biologiques. Donc pour que l'étude comparative ait une valeur, il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une seule exploitation bio en France dans le domaine, parce que ça n'a pas de sens. Donc là, ils ont pris donc le maraîchage, parce qu'il y a 11% des maraîchers qui sont en bio, donc c'est plutôt pas mal. Hein. La viticulture, il y en a 6% qui sont en bio, et le lait de vache, il y en a 3% qui sont en bio. Donc, et en plus d'être les plus représentés au sein de l'agriculture, c'est aussi ce qui est le plus important en termes d'achat pour les ménages, parce qu'il faut savoir que le vin, c'est 792 millions d'euros d'achat par an en France, 626 millions pour les légumes frais, donc le maraîchage, et 325 millions d'euros pour le lait, et je vous parle pas des produits laitiers qui sont presque à 500 millions d'euros. Donc ils ont pris, c'est pas l'ensemble de l'agriculture, mais c'est des secteurs importants. Alors, on regarde les chiffres. On va regarder du côté des vignobles. On va commencer par ça, parce que là, on a envie de boire un coup pour oublier le déferlement des touristes zombies à Lyon, là. Et les viticulteurs en agriculture biologique, c'est ceux qui s'en sortent le mieux, en fait. Parce qu'ils génèrent en moyenne un chiffre d'affaires de 17 000 euros par hectare. C'est 46% de plus que ceux qui font de l'agriculture polluante. C'est pas mal. Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est quand même le prix de vente qui est supérieur. De 10 à 40% sont les produits. Pourtant, ils ont des frais de personnel une fois et demi plus cher, mais qui est largement compensé par le prix de vente qui est plus élevé et les frais amoindris sur les autres domaines parce qu'ils mettent moins de produits. Du coup, enfin, ils en mettent presque pas d'ailleurs. Alors, l'INSEE qui a étudié ça sérieusement nous donne les chiffres. Le rapport est disponible sur Internet. Hein, il y a un peu tout. Il y a des gros tableaux, des graphiques. Vous avez toutes les choses et les détails. Nous explique qu'il y a des endroits où ça marche plus ou moins bien. Par exemple, l'écart entre bio et le pas bio sur le bénéfice, hein, on parle. Il est que 2% en Bordelais. Donc en bio, on gagne 2% de plus dans la région de Bordeaux. Par contre, dans le Sud-Est, dans le Val-de-Loire ou dans l'Alsace, en bio, on gagne 60% d'argent en plus. Par exploitation, par hectare. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est pareil dans le Languedoc et dans le Roussillon. Ils ont des taux très importants. Il faut dire qu'eux, ils jouent souvent sur les deux appellations, c'est-à-dire ils sont bio et souvent AOP, c'est-à-dire appellation d'origine protégée. Donc pour le vin, c'est plutôt rentable. C'est même totalement rentable d'après l'INSEE. Voilà. Alors sur le maraîchage, les légumes frais qu'on mange tout au long de l'année. Pas la tomate qu'on mange maintenant alors qu'il n'y en a plus. Donc en 2013, le maraîchage en plein air, le chiffre d'affaires en moyenne était de 10 900 euros à l'hectare pour les maraîchers bio. Pour les producteurs conventionnels, 12 500 euros à l'hectare. Alors là, je dis, mince, c'est l'inverse du vin. Ils gagnent plus en conventionnel, c'est-à-dire en polluant, qu'en bio. Alors, sur le bénéfice des ventes, oui. Sauf que après, si on continue l'étude des chiffres, on regarde le coût des consommations dites intermédiaires, c'est-à-dire les pesticides, tout ça. Et là, ah ben, 6 300 euros à l'hectare pour le bio, 8 100 euros à l'hectare pour l'agriculture productiviste. Alors, les frais de main-d'œuvre sont à peu près identiques, ça coûte cher le maraîchage, hein, quoi qu'il arrive. Il y a moins de machines, les salades sont récoltées à la main, etc. Donc c'est à peu près identique. Et au final, l'excédent brut d'exploitation, c'est comme ça que c'est le terme utilisé par l'INSEE, est meilleur pour le bio, 3 300 euros par hectare d'excédent, contre 2 500 euros pour le maraîchage conventionnel, c'est-à-dire polluant. Pas mal. Donc, finalement, bah là aussi, il faut continuer de développer le bio. Alors, dernier objet de l'étude, l'élevage. Donc, à travers l'élevage qui sert à faire du lait de vache, parce qu'ils sont mis sur la vache. Donc là, c'est pareil, comparaison au départ plutôt perdante pour le bio. Productivité des animaux bio inférieure à 20 à 25%. Alors, les vaches sont pas toujours moins bonnes, un petit peu parce que c'est des vaches plus rustiques, mais qui ont un avantage, où ils vont beaucoup gagner, c'est qu'elles sont plus résistantes aux maladies. Et puis elles produisent moins parce qu'elles sont nourries correctement. Donc elles sont dans le bio, hein, on doit nourrir les vaches avec 60% de l'alimentation constituée de fourrage grossier, donc des herbes de prairie, des choses comme ça, et 60% doit venir de l'exploitation elle-même ou d'exploitation bio juste à côté de l'exploitation. Donc effectivement, c'est moins productif que la bouffe industrielle qu'on donne à ces vaches. Donc, elles sont un peu moins rentables. Par contre, quand on tient compte du coût par animal de la bouffe qu'il faut lui acheter quand on n'est pas en bio et des frais de vétérinaire parce que elles sont plus malades, parce qu'on les traite à tour de bras, et ben là, l'excédent brut d'exploitation devient supérieur de 20% pour le bio. Voilà. Alors bon, l'étude parle aussi des circuits courts qui accélèrent encore les gains des producteurs, des agriculteurs. Donc voilà, une petite démonstration qui n'est pas politique pour le coup, qui est une démonstration avec des chiffres comme ils savent faire l'INSEE, rébarbatif au possible. On a les mêmes conclusions que quand on est militant, c'est que et qu'on est un petit peu intelligent, ce qui semble pas être le cas des gens de la FNSEA, c'est qu'effectivement un agriculteur aujourd'hui gagne mieux sa vie s'il passe en bio que s'il reste en agriculture polluante. Et en plus, ça détruit pas la planète, mais ça, bon, ils s'en foutent, les agriculteurs de la FNSEA.
Alors, on va ouvrir une petite page où c'est le moment drôle de l'émission. Il faut savoir que là, en Belgique, à Bruxelles, il y a des militants et des militantes anti-foot, anti-sport business, qui sont mais heureux si vous saviez, ils dansent la samba ou toute autre danse où on bouge son corps avec bonheur. Et oui, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, l'UEFA, hein, vous savez qu'il va, vous savez peut-être pas, il va y avoir un Euro en 2020 de football, hein, évidemment. L'UEFA a décidé aujourd'hui de retirer à Bruxelles les 4 matchs de l'Euro 2020 qui devaient s'y dérouler et de les reprogrammer dans le stade de Wembley. À Londres, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'a priori, il y a une incapacité des organisateurs belges à garantir que le stade en projet va être livré à temps. Pardon, mais nous qui n'aimons pas le sport business, ça nous fait bien marrer. Alors il fallait savoir qu'en plus que Bruxelles était en lice pour avoir le match d'ouverture, finalement ce match va se dérouler à Rome, hein, donc Bruxelles vraiment... C'est la cata. Alors, en plus, ça là, c'était les 60 ans de l'UEFA pour l'Euro 2020. Donc, c'est un format très particulier puisqu'il y a 13 villes qui sont choisies. Donc, c'est un truc un peu européen, voyez. Et donc, Bruxelles est écartée de ce grand moment de convivialité entre les supporters de football. Donc c'est tout qui a été reconfiguré sans Bruxelles. Alors ce qui s'est passé, c'est que en fait il y a le stade roi du Robaudouin qui était condamné à la destruction. Il y a un nouveau projet qui est à amener, c'est Jelamco qui est désigné en mars 2015 pour la construction de l'Eurostadium, donc un truc vraiment pour cette Euro 2020. Il y a un principe d'occupation par le club Anderlecht, et puis ça marche pas parce que le club estime qu'il y a un coût de location qui est trop important et ne veut plus être partenaire de ce futur stade. Et donc là, d'un seul coup, ça se casse la gueule. Jelamco, de notre côté, essaye de faire valider son projet par les autorités. Simplement, derrière, la firme qui fait du BTP avait dit qu'elle pourrait bâtir le machin en 18 mois. Sauf qu'en même temps, la ville de Bruxelles, la région de la Flandre, ne donne toujours pas les permis de construire parce qu'il y a plein d'avis négatifs qui sont relatifs à l'environnement qui tombent. Donc, le blocage se fait au fur et à mesure et donc, du coup, l'UEFA décide de virer Bruxelles. Et alors là, je vous dis pas, la catastrophe dans les journaux à Bruxelles. Hein. Bon, il y a Johnny, vous me direz, ça permet d'effacer un petit peu la chose. Moi, j'ai été du coup sur le site de l'UEFA un petit peu lire ce qu'il en était. Et donc, la décision est du jour. Et alors, j'ai trouvé une petite phrase très intéressante aussi. Je vous laisserai l'analyser comme vous le souhaitez. Il a également, je cite, « Il a également été confirmé que les équipes de Russie et d'Ukraine, ainsi que d'Arménie et d'Azerbaïdjan, resteraient séparées pendant la procédure. » Et oui, parce que le sport, c'est aussi de la politique et qu'on fait en sorte que tout ne se croise pas.
Sinon, ça se tape sur la gueule.
Et voilà, il faut jamais oublier ça. Et alors, je vous disais, le Qatar. Le Qatar rencontre donc quelques soucis géopolitiques, isolés. Je vous rappelle que depuis déjà quelques semaines et quelques mois, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Yémen, Bahreïn, l'Égypte ont rompu les relations diplomatiques avec le Qatar. C'est le bazar sur la région. Monsieur Macron essayait d'ailleurs de remettre tout ça en ordre et de montrer que la France est aux côtés de personne et de tout le monde. Hein, c'était un peu la position de monsieur Macron. Le truc, c'est que je vous rappelle qu'il y a Qatar 2022. Nous sommes toujours dans du football, que déjà il y a plein d'histoires sur les droits humains au Qatar, sur la construction de toutes les petites parties qui doivent accueillir tout ça. Et alors, il faut savoir qu'en même temps, depuis un mois, à New York, il y a le procès de trois cadres sud-américains de la FIFA, et avec ce procès, il se raconte plein de choses, dont des soupçons d'achat de vote en faveur du Qatar. Donc, ça prend aussi de l'ampleur. On pense qu'il y a eu de la corruption. Hein, c'est pas nouveau, c'est une histoire de corruption. Donc ça fait que, on parle de corruption envers le Qatar, on parle de la situation géopolitique, mais qu'est-ce qui va donc se passer en 2020? Ça a été donné en 2010, tout ça. Donc depuis, il y a quand même une instabilité qui s'est mise en place. Et donc, il y a une rumeur qui se lance. Alors c'est une rumeur qui est évidemment portée par ceux qui voudraient que la rumeur se réalise. Et c'est un média mexicain, Record, qui avance tout ça dans ses articles et qui explique que la candidature conjointe du Mexique, des États-Unis d'Amérique et du Canada pour 2026 pourrait en fait être une candidature pour 2022 et que en fait il pourrait y avoir une inversion entre le Qatar et les trois pays entre la localisation de tout ce qui pourrait se mettre en œuvre, c'est-à-dire que la Coupe du Monde se passerait plutôt au Mexique, aux États-Unis, au Canada et non plus au Qatar. C'est qu'une rumeur, hein. Mais la rumeur, elle fait du bruit parce qu'en fait, ça arrangerait tout le monde et en particulier les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique n'ont pas été sélectionnés pour ce qui arrive tout de suite. Donc, ce qui serait bien, c'est que en fait, ils puissent quand même trouver un moment une sélection et participer à ces jeux parce que du coup, attendre 2026, pensez donc, ça craint un petit peu. Et puis derrière, il y a aussi les investissements de Fox Sports qui a mis beaucoup d'argent et qui se retrouve à pas pouvoir vraiment vanter l'affaire en Amérique du Nord. Donc finalement, ça serait bien que en 2022, tout de suite, on puisse remettre le couvert plutôt qu'attendre 2026, puisque en 2018, ça va pas se passer bien pour cette Coupe du Monde de football pour les États-Unis d'Amérique. Donc il y a là aussi encore une affaire à la fois politique, économique, bien évidemment, et évidemment ce n'est jamais que du sport. On est bien dans du sport business. Alors est-ce que cette rumeur va se réaliser? Moi personnellement, j'en sais rien. Je vous rappelle juste que en 86, il devait y avoir une Coupe du Monde de football en Colombie et que ça s'est pas fait.
Oui.
Que il y a dû, pour des raisons politiques, tout ça a été annulé, donc c'est tout à fait possible.
Alors, on va parler un petit peu de ces fameux 80 économistes qui sont réveillés comme ça du jour au lendemain, en amont du sommet international Finance et Climat, hein, qui est convoqué, organisé peut-être, par Emmanuel Macron. Ces 80 économistes, soi-disant de réputation mondiale, on ne sait jamais bien ce que ça veut dire, hein, qui viennent de 20 pays différents, ça on en est sûr, et qui ont publié donc une belle déclaration demandant l'arrêt total des flux financiers vers la production et les infrastructures concernant l'énergie fossile, et d'inverser la tendance et de mettre tout ça sur les énergies renouvelables. Alors, c'est plutôt pas mal, donc on rappelle, le 12 décembre, ce sera deux jours avant l'anniversaire de l'accord climatique qui avait été signé à Paris, là, Emmanuel Macron présidera ce fameux sommet international qui s'appelle le One Planet Summit, focalisé effectivement sur la mobilisation de la finance pour le climat. Bon, on sait que les engagements pris dans les différentes COP, notamment celle qui était en France, la COP 21, ça aboutit à rien ou à pas grand chose, notamment au niveau de la finance. Donc ces 80 économistes, ils sont allés de leur déclaration en disant bah non, maintenant faut réorienter la politique financière sur les énergies. Alors, ils sont un petit peu ridicules. Pourquoi ? Parce qu'ils sont que 80 et qu'il y a eu le même appel il y a quelques semaines par des scientifiques et ils étaient 15 000. Donc on se dit, ça pète quand même beaucoup plus du côté des scientifiques. Faut dire que les scientifiques, avec leur culture, leur savoir, ben ils comprennent bien qu'il y a un vrai problème sur l'utilisation des énergies fossiles, les gaz à effet de serre et toutes ces choses-là, et que les économistes, eux, bon, ils doivent être moins ouverts, moins scientifiques, moins rationalistes, moins intelligents, et qu'ils en ont trouvé que 80 pour réagir. Peut-être qu'en proportion, il y a peut-être moins d'économistes que de scientifiques. Mais alors ça, je suis pas sûr du tout, vu le nombre d'écoles de commerce qu'on a. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans ce métier-là. Non, c'est juste que voilà, 80 économistes qui se sentent concernés face à 15 000 scientifiques, ça fait très très peur. Et ça nous dit qu'une fois de plus, l'enseignement minimum du rationalisme et des sciences, qui devrait être partagé par l'ensemble de la population, que l'on fasse des études littéraires, parce que c'est de la culture générale, de comprendre comment le monde fonctionne, comment une cellule fonctionne, comment l'énergie est créée, transformée, et ben voilà, finalement c'est partagé que par les scientifiques. Alors que les scientifiques, ils savent lire, et ben ce serait bien que le commun des mortels sache comprendre comment les conséquences de brûler un bout de bois, de dégrader du pétrole pour en faire du plastique, et de comment se passe une reproduction d'une cellule. Mais ça, a priori, c'est pas prévu. Donc bref, malgré leur faible nombre, l'impact est relativement important, puisqu'il s'est repris par les médias, et c'est ça qui fait le jeu finalement du truc. Donc ça, on espère quand même qu'ils vont pouvoir influencer effectivement cette conférence et faire qu'il y ait une réorientation. Comme ils le disent et comme le disent pas mal de gens, c'est tout à fait possible de sortir totalement des énergies basées sur les combustibles fossiles, et de passer à une transition 100% renouvelable. Hein, c'est ce qu'ils demandent. On sait qu'il faudrait 20, 30, 40 ans. Peut-être que leur initiative va faire accélérer les choses. Hein. Parce qu'il y en a qui font semblant et qui veulent aller vers du nucléaire, par exemple, ce qui est tout sauf renouvelable, bien évidemment. Tout sauf pas dangereux et tout sauf pas polluant. Voilà. Et je renchaîne avec une deuxième info qui n'a totalement rien à voir. Je vais parler un petit peu d'égalité, notamment d'égalité des droits, et que deux petites infos. La deuxième est un peu marrante, la première est plutôt une bonne nouvelle.
Oh, c'est carrément une bonne nouvelle, écoute.
Oui, oui. Non, pourquoi c'est plutôt une bonne nouvelle ? Alors, je vais revenir sur le truc. C'est sur le mariage, le droit à toutes. Un chacun et un chacune à se marier. Bon, personnellement, moi, ma position, c'est qu'on ne devrait pas avoir besoin de se marier. Donc, d'où mon,
on est d'accord, voilà, dans ce cas-là,
mon relativisme, ouais, sur, oui, le mariage en général. Mais
contre les discriminations, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Contre, excuse-moi, les discriminations,
carrément une bonne nouvelle.
Et puisque les hétéros ont le droit de se marier, il n'y apparaît pas de raison à peu près justifiable pour que les autres aient pas le droit de se marier aussi. Enfin, les autres, c'est-à-dire les homosexuels, du coup. Donc, on va parler de l'Australie. Il y a eu une sorte de sondage auprès de la population qui devait envoyer une lettre pour donner son avis s'ils étaient pour ou contre un futur projet de loi sur le mariage pour tous. Et donc, il y a eu une bonne participation. 62% des 12,7 millions de votants, il y a quand même 12,7 millions de votants, c'est pas mal, ils ont dit qu'ils, à 62%, qu'ils étaient pour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre d'appel comme ça, on a toujours peur que les opposants soient plus motivés pour réagir. Et ben là non, ça a été un peu à peu près réaliste. Du coup, Aujourd'hui, le Parlement australien a adopté le projet de loi sur le mariage gay. Après cette fameuse grosse consultation nationale, alors c'est pas fini. Maintenant, il faut qu'il le propose au gouverneur général Peter Cosgrove, qui est le représentant de l'Australie auprès de la reine Elisabeth II. Bah oui, Commonwealth oblige. Pour signer cette loi, et donc ça devrait être chose faite dans les jours qui viennent. Donc d'ici samedi, les couples du même sexe pourront déposer des demandes officielles de mariage. Les premières unions devraient intervenir d'ici un mois. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'égalité des droits, effectivement, en Australie. Ça fait partie maintenant des nombreux pays, alors nombreux, une vingtaine de pays reconnaissent, je ne sais plus combien il y a de pays dans le monde, hein, plus de 150.
En fait, c'est pas du coup si nombreux que ça. Mais
du coup, c'est pas si nombreux que ça, relativement, c'est vrai.
Ça augmente, mais ça ne peut aller que pour le mieux.
Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais entendre, ce que je voulais dire. Et puis, alors une info qui est à la fois drôle et qui est en lien avec tout ça, je vais parler de Calvin Holdsworth. Il me fait beaucoup rire. Alors, pourtant, les prêtres me font rarement rire. Mais lui, si. Donc, lui, il a dit que si le prince George, donc le prince anglais, tout ça, qui a 4 ans...
On sent que tu maîtrises bien la royauté mondiale, toi.
Non,
le prince, tout ça...
Le prince, c'est le George, c'est un petit enfant des dirigeants anglais. Donc, si le prince George, 4 ans, était homosexuel, c'est ses paroles, cela pourrait faire avancer la cause LGBT. Il n'a pas tort. Il dit, en gros, s'il y avait un homo dans la famille royale anglaise...
Qui était dit, parce que c'est pas qu'il n'y en a pas.
Oui, mais qui s'affiche, qui s'assume, voilà. Ça pourrait faire avancer les trucs. Sauf qu'il a 4 ans, le gamin. Donc, il l'a fait par pure provoque, il a dit. Donc, parce que à 4 ans, on a rarement... Enfin, je maîtrise pas
ça,
assez.
C'est bizarre d'utiliser un enfant, je trouve.
Oui, mais puisque les autres, ils le sont pas, il se dit, il faut, j'espère que lui, il sera, en fait. C'est ce qu'il laisse entendre. Hein. Donc, il a fait ça sur son blog. C'est un prêtre épiscopalien de l'Église d'Écosse. Donc voilà, il a laissé entendre ça, ce qui est vrai, hein, s'il y avait un membre affirmé homosexuel dans la famille d'Angleterre, la famille royale d'Angleterre, ça ferait sûrement avancer la cause des gays en Angleterre. Donc voilà, et alors il est allé loin, il exhorte les Anglais à prier en secret, ou il dit, ou publiquement, si vous l'osez, pour que le Seigneur bénisse le prince George de l'amour d'un beau gentleman quand il sera grand. Il va jusqu'au bout de sa provoque, il est assez bon quand même. Alors, c'est un prêtre qui est homosexuel, hein, qui ne s'en cache pas, qui s'est opposé déjà à l'Église d'Angleterre. Hein. On rappelle, c'est l'anglicanisme, hein, l'Église d'Angleterre. Elle est contre le mariage gay, mais il y a une de ses branches, qui est l'Église épiscopale d'Écosse, dont fait partie Calvin Holdsworth, qui a déjà célébré des unions homosexuelles religieuses, hein, parce que eux ils ont rayé dans leur une espèce de charte que le fait qu'un mariage c'était écrit entre un homme et une femme. Maintenant, un mariage c'est une union entre deux personnes. Voilà. Alors bien sûr, il a été sanctionné. L'Église a été sanctionnée par la maison mère de l'Église d'Écosse, d'Angleterre et américaine d'ailleurs il y a quelques années. Mais il essaie de faire changer les choses. Face à cette discrimination homophobe, hein, qui est portée par l'ensemble des églises du monde. Mais du coup, l'Église d'Angleterre est un peu plus ouverte, anglicane, un peu plus ouverte. Hein. On sait qu'il y a des femmes qui sont prêtres. Voilà, c'est un peu plus, un peu moins fermé que les autres chrétiens, que certains autres chrétiens. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça drôle, sa provocation, en disant qu'il priait pour que le prince George de 4 ans tombe amoureux d'un beau jeune homme quand il sera plus grand. Voilà. Bon, c'était de la pure provoque quand même, mais ça, souvent, ou quelquefois en tout cas, je sais pas, la provoque peut faire avancer les choses et les mentalités.
Alors tout à l'heure tu parlais du mariage pour personne, hein, dans notre idée. Nous c'est vrai qu'on se bat, on s'est battu pendant longtemps et on continue à se battre dans des manifestations pour des papiers pour tous et toutes. Mais au fond de nous, dans cette émission, on veut des papiers pour personne, hein, c'est quand même ça qu'on espère. Et on se demande en ce moment si la France est une terre d'accueil. La réponse est non, très clairement. La semaine dernière, un peu en urgence, nous avons accueilli avec... on était contents que les gens puissent venir s'exprimer. On a accueilli ceux et celles qui sont en lutte et en résistance pour que des familles ne restent pas à la rue. Donc on a fait venir des voisins de Radio Canu.
Voilà, du collectif Jamais Sans Toi.
De l'école juste à côté, dans la même rue que Radio Canu. Mais c'est juste pour vous dire très rapidement qu'il y a d'autres lieux. Hein. Depuis le 1er décembre, il y a le collège Henri Barbus à Vaux-en-Velin qui a aussi décidé, c'est les équipes, hein, du collège collège, qui a décidé de mettre à l'abri deux familles, et donc qui occupe l'établissement. Demain, il y a une conférence de presse, parce que les choses n'avancent pas. Très clairement, on se retrouve dans une situation encore une fois paralysée. Et puis, vous pouvez aussi, par exemple, vous rapprocher à Villeurbanne, de l'école La Canale. Donc, pour vous dire qu'il y a plusieurs endroits à Lyon, et en tout cas sur la métropole lyonnaise, il suffit d'aller sur internet, de taper collectif jamais sans toi, et vous aurez forcément des informations sur ce qui se passe à côté de chez vous.
Et jamais sans toi, je rappelle aussi, on l'a pas dit, c'est un jeu de mots, c'est TOIT à la fin.
Oui, bien sûr, bah bien sûr. Là, c'est pour mettre des familles à l'abri. Il y a aussi ce mouvement très important avec l'Amphicé à l'université Lyon de Debron. Donc à Lyon, il se passe des choses pour mettre des gens à l'abri, quelle que soit la provenance de ces familles, quelle que soit la provenance de ces personnes, parce que très clairement, la France n'est pas une terre d'accueil. Alors, des fois, on est assez critique dans cette émission envers des associations humanitaires, soit parce qu'elles sont très chrétiennes et leur discours nous énerve, soit parce qu'on sait qu'en interne, les salariés sont maltraités. Mais là, j'ai quand même envie de vous parler de de l'action qui a été lancée par la Fondation Abbé Pierre ce mercredi. Hier, la Fondation a lancé une campagne qui s'intitule « Soyons humains », hein, parce que là, encore une fois, est-ce que la France est une terre d'accueil ? C'est une action et une opération qui est organisée à Paris, à Marseille, à Montpellier, à Metz et à Lyon, par exemple. L'idée, c'est de dénoncer tous les équipements urbains dont le seul but est de dissuader les personnes sans abri de s'installer. Vous savez, ces bancs où il y a des arceaux, tous les pics qu'on installe de partout pour éviter que les gens puissent se coucher, s'allonger, se mettre à l'abri, se réchauffer. Hein, c'est les grilles, les picots, les rochers, les poteaux, les bancs inconfortables, tous ces équipements urbains pourris, tous ces grillages qui empêchent les gens de se mettre à l'abri, en particulier l'hiver. Donc, la Fondation Abbé Pierre lance cette opération. Hein. Alors là, il y a eu une grande campagne hier de collage à Paris, par exemple, ou à Lyon, au-dessus de ces équipements tout pourris. L'idée, c'est qu'il faut pas, c'est pas aux pauvres qu'il faut faire la guerre, mais c'est à la pauvreté. C'est un slogan simple, bête, mais qui est encore d'actualité, qu'il sera encore demain, bien malheureusement, parce que c'est encore aux pauvres qu'on accuse d'être pauvres, hein, on en est là. Donc la Fondation, l'idée, c'est nous appelle à aller photographier. Hein, vous prenez votre smartphone, pour une fois, il va servir à quelque chose d'utile. Et puis vous allez prendre des clichés de tous les endroits où il y a ces picots dans la ville. Et l'idée, c'est ensuite d'avoir le hashtag ou le mot dièse, soyons humains, d'aller sur le site soyonshumains.fr et ensuite de poster tout ça. Et grâce à la géolocalisation, d'avoir une carte pour montrer à quel point la France n'est pas une terre d'accueil et qu'elle rejette les pauvres, les migrants, les réfugiés, et qu'il y en a marre et qu'il faut non pas s'indigner mais se révolter. Et donc c'est aussi une participation bête. Voilà, il n'y a pas besoin de descendre dans la rue et de manifester le poing en l'air, c'est qu'avec votre smartphone, eh ben on va créer une carte et que tout ça va être consultable et qu'on va montrer à quel point la France est pourrie en ce moment.
Voilà, pas mal.
Tout simplement. Mmh. Voilà.
On va terminer ce Kenya Info avec un petit mot d'énergie et d'environnement, puisqu'il nous reste 5 petites minutes. Je vais annoncer une bonne nouvelle. Vous pouvez ressortir dans la rue à Lyon, marcher. Alors là, c'est un peu compliqué avec les zombies touristiques, mais on a à nouveau le droit de marcher et de faire du sport à Lyon, puisque l'alerte pollution est totalement enlevée. Alors déjà hier mercredi, dans le bassin Nord-Isère, c'était suspendu, et aujourd'hui, dans l'ensemble de la région lyonnaise, il n'y a plus d'alerte pollution. Les automobilistes ont fait bien évidemment aucun effort, hein, principaux responsables de ces pollutions. Mais c'est juste que la météo les aide, puisque le vent souffle et donc le vent pousse la pollution qu'ils émettent vers les autres. Les autres où il y a moins de population, c'est-à-dire à la campagne. Bon bref, voilà, vous pouvez à nouveau sortir respirer. Et puis un petit mot sur le stockage du carbone. Alors vous savez, c'était une idée il y a quelques années. Alors ça avait été, c'est une idée qui est récurrente, c'est une sorte de truc qui revient régulièrement, porté par certains ingénieurs. C'est tout le CO2 là qu'on dégage par les différentes combustions de matière, que ce soit d'ailleurs du bois, du charbon, du pétrole, du gaz. CO2, gaz responsable en partie de l'effet de serre, hein, c'est pas le seul. Si on pouvait le capter et en faire quelque chose, ça serait pas mal, parce qu'on brûlerait, on récupérait le CO2, il n'y aurait pas d'effet de serre. Ah, bon, effectivement, un truc scientiste, voilà, on crée un problème, et au lieu d'arrêter de le créer, le problème, on essaye de trouver une solution pour les conséquences du problème, qui entraînera à nouveau des problèmes, on trouvera d'autres solutions, enfin, etc. C'est un truc qui s'arrête jamais. Et ça, c'était revenu il y a quelques mois, quelques années, un petit peu à la mode. Et là, les dernières études montrent que tout le monde semble abandonner. Il y a eu des essais un petit peu partout sur ces captages, c'est compliqué, il faut trouver un trou, parce qu'on comprime le CO2, on le met dans des zones étanches sous terre, hein, c'est pas facile à faire. Il y a eu d'autres études avec des éléments qui le captaient, qui le fixaient, le CO2, enfin voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait c'est l'économie qui est en train de régler le problème. C'est qu'aujourd'hui ça va coûter, ça a un coût, hein, de se stocker et de capter ce CO2. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, le coût d'achat et de brûler des énergies fossiles et le coût de captage, il fallait que ça reste inférieur au coût des autres énergies. Et ben c'est plus le cas. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont en train de baisser tellement, et ben que c'est plus du tout rentable de rajouter un coût à l'utilisation des énergies fossiles. Ce fameux coût de stockage ou de captage. Et donc du coup, il y a pas mal de choses qui sont abandonnées, de projets qui sont abandonnés dans ces technologies que nous n'avions pas dans notre cœur, bien évidemment, mais qui semblaient la solution pour certains pétroliers notamment. Alors, tout le monde n'a pas abandonné, ça aurait été trop beau, bien évidemment, mais la tendance est quand même à lâcher un petit peu tous les projets, parce qu'effectivement, le prix des renouvelables a tellement baissé qu'il y a peu de chances que ça soit concurrentiel. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce sera la fin des infos pour aujourd'hui, avant de faire un petit agenda.
Moi, je voudrais juste faire une remarque. Tu nous as beaucoup parlé des touristes zombies, mais tu n'as pas parlé de toute cette flicaille qu'il y a dans la rue. C'est pire que les autres années, hein, sachez-le, si en plus vous n'habitez pas à Lyon. On a une présence policière, CRS, militaire extrêmement importante, et en plus ils sont en armes. Et alors en plus c'est très marrant parce que comme l'année dernière ils sont pas du coin pour une partie des gens qui sont dans la rue, donc ils sont perdus, donc ils sont absolument pas opérationnels.
Ils ont des cartes, ils posent des questions aux gens, enfin
voilà. Et il faut même savoir que la police municipale est rentrée dans Radio Canut tout à l'heure pour demander si jamais ça pouvait servir de mise à l'abri au cas où il se passe un truc, on n'a pas bien su quoi. Mais c'est très voilà, enfin on sent qu'il y a quand même à la fois beaucoup de barrières, beaucoup de flics et puis du grand n'importe quoi.
Enfin, on rappelle que ça concerne essentiellement les gens qui sont à l'intérieur de cette fameuse zone de la Fête des Lumières.
Oui.
Radio Canut malheureusement est au milieu de cette zone touristique extrême, on va dire. Hein. C'est vraiment du touriste extrême. Hein. On amène plusieurs millions de personnes dans un endroit qui en contient quelques centaines de milliers d'habitude.
Ben, moi, j'en veux pas forcément aux gens de venir visiter. Écoute, c'est aussi un moment quand t'es touriste, tu peux pas savoir avant d'y être exactement ce qui va se passer. Ce qui est quand même assez hallucinant, c'est d'accueillir des gens, moi je trouve, avec des fusils de guerre, d'assaut, et d'être juste à côté de ces touristes-là, moi je trouve ça assez épouvantable. Enfin, mince.
Non, mais ce qui est affligeant, c'est que.
Dingue.
On a. L'ensemble du territoire lyonnais est grand, la ville de Lyon est quand même immense, et qu'on concentre en fait les attractions touristiques lumineuses à un tout petit quartier. Ce qui rend la vie impossible des gens qui vivent dans ces quartiers ou qui traversent ces quartiers, alors qu'on a connu des fêtes des Lumières où il y avait des choses dans le 3e, des choses dans le 7e, des choses dans le 8e. Moi, je me rappelle d'avoir vu des trucs sur les façades dans le 8e. Et c'était beaucoup plus ouvert, beaucoup mieux. Et 4 millions de personnes répandues sur un territoire qui en contient 600 000, c'est plus facile que quand c'est sur un tout petit territoire comme la Presqu'île. Hein. Bon, voilà, bref. Mais c'est des choix politiques et nous n'avons pas notre mot à dire. Bien évidemment. Nous poursuivons avec un tout petit agenda avant de vous laisser avec vraisemblablement les bandes continues de la plus rebelle des radios. Discussion sur la situation en Catalogne. Demain soir, on sera le 8 décembre. À 18h à la librairie La Griffe, il y a des camarades, j'imagine anarchistes, qui sont de Barcelone et qui vont venir parler de la situation qui est un petit peu confuse. On a vu une belle manifestation nationaliste aussi pas mal à Bruxelles.
Ouais, on n'en a pas parlé, mais il y avait du monde quand même.
Ouais, ouais. Mais c'est pas mal de nationalistes hein, quand même. Hein. Faut se rappeler, hein, c'est la droite de l'autre côté, hein, c'est l'extrême droite. Hein. La fameuse déclaration de Trump, il y a une manifestation samedi à Lyon, ce sera le 9 décembre. Et ça sera à partir de 15h, place de la République, donc sur la Presqu'île. Et puis toujours le 9 décembre à 15h, toujours dans Lyon, mais cette fois-ci dans le 7e, la librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe, métro Saxe Gambetta. Il y a une rencontre débat avec l'auteur du livre qui s'appelle L'École du Peuple. Elle s'appelle Véronique Decker, pour parler un petit peu des méthodes, notamment de Célestin Freinet, et des choses comme ça, et des expériences qu'elle a à travers des petits textes qui sont souvent assez drôles d'ailleurs. Donc voilà, pour parler un petit peu de pédagogie alternative. La Griffe, ça sera samedi 9 décembre. novembre. Et puis on rappelle que le Canu Info n'aime aucune superstition, et donc le 8 décembre, je rappelle que la Vierge n'a sauvé personne de la peste, et que c'est bien évidemment un mensonge, une superstition. Luttons contre ces irrationalités qui nous envahissent en permanence. J'ai découvert encore cette semaine, parce que je prends pas les transports en commun, que les transports en commun lyonnais, les TCL, faisaient de la propagande pour des croyances, des systèmes irrationnels, notamment à travers des horoscopes, ce que je trouve honteux.
Ah, tu n'avais jamais découvert ça ?
Si, mais j'avais oublié.
Ça se veut ludique, marrant, ouais, sauf et décalé, sauf que ça reste de l'horoscope.
Ouais, et puis ça peut modifier le comportement de certaines personnes, les influencer, et moi je trouve que c'est honteux que des gens qui écrivent des trucs complètement irrationnels comme ça puissent avoir une influence sur d'autres personnes qui sont peut-être un peu faibles, qui sont un petit peu fragiles, un petit peu, enfin, oui, qui ont un problème. C'est juste la honte, voilà. Messieurs les TCL, non seulement vous faites de la répression en permanence, mais en plus vous véhiculez de l'irrationnel, et ça, c'est quand même un petit peu moche.
Voilà, donc sur ces paroles, voilà, bah, on vous rappelle que vous êtes quand même vous écoutez une émission avec une vilaine bande d'anarchistes rationalistes, anticapitalistes, antifascistes et antisexistes, et tout le reste.
Hein. Chers auditeurs, chers auditrices,
idées un petit peu tranchées, voilà.
Nous vous souhaitons une bonne soirée quand même.
Et on se retrouve en tout cas la semaine prochaine, toujours avec le même ton.
Voilà, et demain pour le prochain Canu Info à 19h. Bye bye.
Ciao.